Guerre et paix. Troisième partie, chapitre 2, scène 19. Dans la nuit du 13 septembre, Koutouzov donna l'ordre aux troupes de se replier par Moscou sur la route de Riazan. Les deux premiers régiments se mirent en marche la nuit. Ils avançaient posément et sans se presser, mais lorsqu'au point du jour, en arrivant au pont de Dorogomilov, ils aperçurent devant eux une foule innombrable envahissant le pont, s'étageant sur les hauteurs, se répandant par les rues et les carrefours et arrêtant la circulation, quand ils se sentirent suivis par une masse tout aussi considérable de gens qui les poussaient en avant, les soldats, emportés par ce double mouvement, se précipitèrent en désordre sur le pont, sur les barques et jusque dans l'eau. Quant à Koutouzov, il traversa Moscou par les rues détournées. À 10h du matin, le 14 septembre, il ne restait plus que l'arrière-garde dans les faubourgs de Dorogomilov. Tout le reste de l'armée avait opéré son passage. À la même heure, Napoléon, à cheval au milieu de ses troupes, examinait du haut de la montagne Poklonaya le panorama qui se déroulait devant ses yeux. Du 7 au 14 septembre, depuis Borodino jusqu'à l'entrée de l'ennemi, pendant cette semaine mémorable et agitée, il faisait à Moscou ce beau temps d'automne, qu'on accepte toujours comme une agréable surprise, alors que les rayons du soleil, bas à l'horizon, scintillent dans l'air pur en éblouissant la vue et projettent une chaleur plus forte qu'au printemps. Alors que la poitrine se gonfle et se dilate en aspirant les brises parfumées, alors que les nuits sont encore tièdes et que leurs ténèbres s'illuminent d'une pluie d'étoiles dorées dont le mystérieux spectacle effraie les uns et réjouit les autres. La lumière du matin inondait Moscou d'un éclat féerique. Étendue au pied de la Poklonaya, avec ses jardins, ses églises, ses rivières, ses coupoles brillantes comme des lingots d'or ou rayons du soleil, ses constructions fantastiques, son architecture étrange, la ville semblait vivre de sa vie habituelle. Napoléon éprouvait, en la contemplant, cette curiosité inquiète et pleine de convoitise que provoque chez un conquérant l'aspect de mœurs inconnues et étrangères. Il constatait, dans cette grande cité, une exubérance de vie dont il distinguait, du haut de la montagne, les indices infaillibles, et il entendait, pour ainsi dire, la respiration haletante de ce grand corps étendu devant lui. Chaque cœur russe, en contemplant Moscou, se dit que c'est une mère, tandis que tout étranger, sans même se rendre compte de son rôle maternel, reste frappé de son caractère essentiellement féminin. Napoléon le comprit.
Cette ville asiatique avec ses innombrables églises, Moscou la Sainte, la voilà donc enfin cette ville fameuse, il était temps.
Dit-il en descendant de cheval, et faisant déployer devant lui le plan de Moscou, il manda l'interprète le lorgne dite ville.
Une ville occupée par l'ennemi ressemble à une ville qui a perdu son honneur.
Pensait-il, ainsi qu'il l'avait dit à Touchkov, à Smolensk. Surpris de voir réaliser ce rêve longtemps caressé et qui lui avait paru si difficile à atteindre, c'était dans ce sentiment qu'il admirait la beauté orientale couchée à ses pieds. Ému, terrifié presque par la certitude de sa possession, il portait ses yeux autour de lui et étudiait le plan dont il comparait les détails avec ce qu'il voyait.
« La voilà donc cette fière capitale !»
se disait-il.
« La voilà à ma merci !» Où est donc Alexandre et qu'en pense-t-il? Je n'ai qu'à dire un mot, à faire un signe, et la capitale des tsars sera à jamais détruite. Mais ma clémence est toujours prompte à descendre sur les vaincus. Aussi serai-je miséricordieux envers elle. Je ferai inscrire sur ces antiques monuments de barbarie et de despotisme des paroles de justice et d'apaisement. Du haut du Kremlin, je dicterai de sages lois. Je leur ferai comprendre ce qu'est la vraie civilisation, et les générations futures des boyards seront forcées de se rappeler avec amour le nom de leurs conquérants. Boyards, leur dirai-je tout à l'heure, Je ne veux pas profiter de mon triomphe pour humilier un souverain que j'estime. Je vous proposerai des conditions de paix dignes de vous et de mes peuples. Ma présence les exaltera, car comme toujours, je leur parlerai avec netteté et grandeur. Qu'on amène les boyards !
S'écria-t-il en se tournant vers sa suite, et un général s'en détacha aussitôt pour aller le chercher. 2 heures s'écoulèrent. Napoléon déjeuna et retourna au même endroit pour y attendre la députation. Son discours était prêt, plein de dignité et de majesté, d'après lui du moins. Entraîné par la générosité dont il voulait accabler la capitale, son imagination lui représentait déjà une réunion dans le palais des tsars, où les grands seigneurs russes se rencontreraient avec les seigneurs de sa cour. Il nommait un préfet qui lui gagnerait le cœur des populations. Il distribuait des largesses aux établissements de bienfaisance, pensant que si en Afrique il avait cru devoir se draper d'un burnous et aller se recueillir dans une mosquée, ici à Moscou, il devait se montrer généreux, à l'exemple des tsars. Pendant qu'il rêvait ainsi, s'impatientant de ne pas voir venir les boyards, ces généraux inquiets délibéraient entre eux à voix basse, car les envoyés partis à la recherche des députés étaient revenus annoncer, d'un air consterné, que la ville était vide et que tout le monde la quittait. Comment communiquer cette nouvelle à Sa Majesté sans la placer dans une situation ridicule, la plus terrible de toutes les situations ? Comment lui avouer qu'au lieu des boyards, si impatiemment attendus, il n'y avait plus dans la ville que des gens surexcités par l'ivresse ? Les uns soutenaient qu'il fallait à tout prix réunir une députation quelconque. Les autres conseillaient de dire, avec habileté et prudence, toute la vérité à l'empereur. Le cas était grave et difficile.
« C'est impossible !»
se disait la suite.
« Mais il faudra bien pourtant qu'il le sache !»
Et personne ne se décidait à parler. L'empereur, qui avait continué à se bercer de ses rêves de grandeur, sentit enfin, avec son instinct et sa finesse de grand comédien, que cet instant imposant perdait de sa solennité en se prolongeant outre mesure. Il fit un geste et un coup de canon retentit. C'était un signal. Aussitôt, les troupes qui entouraient Moscou y entrèrent au pas accéléré par les différentes barrières, en se dépassant les unes les autres, au milieu des tourbillons de poussière qu'elles soulevaient dans leur marche, et en remplissant l'air de clameurs assourdissantes. Entraîné par l'enthousiasme de ses soldats, Napoléon s'avança avec eux jusqu'à la barrière de Dorogomilov. Là, il s'arrêta, descendit de cheval, et se remit à marcher, dans l'attente de la députation qu'il s'attendait à voir paraître.